Usted es el vocero de Marco Rubio en Argentina. Usted con tal de ir unos días gratis a Orlando y a Miami, ya está pago por Rubio. Y por Rotterdam.
Buenos Aires es la plus européenne des villes d'Amérique latine. Cosmopolite et éclectique, complexe et déroutante. Elle cultive les contrastes. Entre les séismes économiques de 2001 et de 2014, entre le passé douloureux et à fleur de peau de la dictature, Buenos Aires revendique ses maires de la place de Mai. De Palermo à La Boca, de la place de Mai à Núñez, le rêve argentin est posé là, dans le chaos vital de ses artères, de ses milongas, de ses tangos, de son asado, de son dulce de leche, de son football.
Bueno, un, dos, un, dos, tres, cuatro.
Buenos Aires, de Palermo à La Boca. Un documentaire de Michel Bernard et de Vinciane Meuchler.
Fundación mítica de Buenos Aires.
Une chanson de Benjamin Biolay nous guide dans la ville à la syntaxe débridée, au rythme de ses résonances et de ses silences. D'abord dans le Palermo des psychanalystes et de la Movida, avant de poursuivre de l'autre côté de la ville, au cœur de La Boca, zone portuaire dévastée. Dans un café de Palermo, proche de la Villa Freud. Pablo Gagliesi, psychiatre. Si Buenos Aires abrite la plus forte concentration au monde de psychanalystes, c'est autant lié à la mémoire de la migration qu'au système de soins de santé, qu'aux crises qui traversent le pays.
Nous sommes à Palermo, qui est le quartier de Freud, et... Mais alors, est aussi un quartier de mode, de télévision et de ciné.
Le quartier de Palermo est divisé en zones très variées, avec chacune sa fonction. Une de ces zones, proche du centre, est liée au quartier de Freud. C'est là que vivent presque tous les psychanalystes de Buenos Aires.
Bueno,
C'est à Buenos Aires que l'on trouve la plus grande concentration de psychologues et de psychanalystes au monde. Phénomène suscité en grande partie par l'arrivée de psychiatres et de psychanalystes d'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est alors que les psychanalystes formés à l'école psychanalytique européenne émigrèrent soit vers Buenos Aires, soit vers New York. Mais Buenos Aires a été un important réceptacle de cet exode de professionnels de la psychanalyse. La psychanalyse et le nombre de psychanalystes se sont développés après la fermeture des universités sous le régime militaire. Ce qui a encouragé un grand nombre de personnes à se former à la psychanalyse dans des lieux privés. De petits groupes organisés se réunissaient au domicile et cabinet d'autres thérapeutes, constituant des cercles d'études privés et autogérés. Et ces groupes ont survécu au régime. Dès lors, la psychanalyse a pris une dimension, disons, familiale, puisqu'elle s'inscrivait dans les habitudes. En effet, dans ce cadre, une lecture de textes de Freud pouvait être organisée à l'improviste chez l'un ou chez l'autre, faisant naître un type de formation qui n'était ni universitaire, ni dogmatique, ni doctrinaire, mais que l'on qualifierait plutôt de familiale. Très curieusement, ce mouvement s'est concentré dans le quartier de Palermo, financièrement abordable, bien desservi par les moyens de transport et qui, en d'autres temps, avait abrité la classe moyenne. Je crois que l'exode de ces thérapeutes européens a eu une influence majeure sur la manière de pratiquer la psychanalyse à Buenos Aires. Ce fut un facteur essentiel. Ensuite, la culture propre à l'Argentine a étoffé la demande. En effet, la culture argentine se distingue par des caractéristiques telles que la plainte, le malaise, les émotions à charge négative, assez rares dans d'autres régions d'Amérique latine, mais tout à fait typiques de Buenos Aires et surtout de la région du Rio de la Plata. Il faut bien comprendre que la plupart de ceux qui ont immigré en Amérique latine sont venus en quête de pour faire l'Amérique. Et bon nombre d'entre eux y sont parvenus, avec plus ou moins de bonheur. Et aujourd'hui encore, il me semble qu'il y a comme une frustration quasi mélancolique de ce rêve et qu'elle est très présente. D'ailleurs, de nombreux Argentins vous diront: quel pays riche nous avons été, qu'est-ce que nous sommes devenus pauvres? Soit une vision assez mélancolique du monde contemporain, du monde actuel. Cela me fait fort penser à certaines décompositions qui apparaissent dans d'autres pays qui ont connu ou qui connaissent la même évolution. Nous sommes proches de la France, de l'Espagne, mais par exemple, cette vision mélancolique est un phénomène que l'on trouve autant parmi une certaine intelligentsia romaine qu'au sein de la classe moyenne romaine. L'idée d'une puissance déchue empreinte d'une certaine mélancolie. De même en Grèce, qui fut elle aussi en son temps une grande puissance, mais qui a cessé de l'être. Ce sentiment de mélancolie occupe une place centrale. Et puis, il y a la notion de secret ou de l'inavoué qui est très présent, me semble-t-il, mais c'est une opinion personnelle. Et puis, n'oublions pas qu'en Argentine, les gouvernements militaires ont longtemps contrôlé la communication. L'information que l'on ne pouvait publier, que l'on ne pouvait communiquer, se transmettait par la sphère privée. Et rien n'est plus privé qu'une psychothérapie.
La llegada de los psicoanalistas también fue a las facultades de medicina.
Un autre fait important est que la psychanalyse a fait son entrée dans les facultés de médecine, ce qui est tout à fait curieux. Du coup, les médecins étaient aussi des psychanalystes. Et dès lors, en Argentine, les pédiatres, les cliniciens ou les cardiologues furent les principaux agents de la psychanalyse. Ils suivirent l'enseignement de professeurs d'Europe formés à la psychanalyse en Autriche et arrivaient à Buenos Aires pendant la guerre. Je crois aussi que l'arrivée des Juifs en Argentine pendant la Seconde Guerre mondiale a été très importante. Je pense même qu'elle a été déterminante, car la plupart d'entre eux étaient médecins et psychanalystes, et une fois entrés dans les universités, cette culture de la psychanalyse allait inévitablement s'imposer. La figure du psychanalyste reflète toutes les facettes de la culture argentine, comme vous l'aurez certainement constaté pendant votre séjour. Ici, quand quelqu'un est assassiné, on crie immédiatement à la conspiration, au complot. C'est un mécanisme difficilement à comprendre, mais c'est comme ça. Et le psychanalyste a lui aussi un côté occulte, quelque chose de secret, quelque chose d'insondable. Au fond, l'être humain ici est perçu comme un lieu avec une certaine abîme, quelque chose d'insondable, et le définir en fonction de cet abîme est typique de l'Argentine. Un autre élément qui a eu une influence positive ou négative, je ne sais pas trop, réside dans le fait que bien que le pouvoir politique de l'Église catholique reste énorme, Buenos Aires est de loin la ville la plus laïque. Buenos Aires est une ville profondément laïque, contrairement à d'autres villes d'Amérique latine, voire même d'Europe, où l'Église et l'image de la croix sont très présentes, pas en Argentine. Bien sûr, il y a des croix dans certains tribunaux, mais l'Église n'a pas eu le pouvoir qu'elle a encore aujourd'hui dans d'autres régions. Elle a bien une présence politique, mais c'est une société plutôt laïque, et je crois que cette laïcité est en soi plus psychanalytique. L'Argentine puise dans une tradition laïque pour apporter des réponses à des questions que d'autres cultures résolvent par la religion. Pour les Argentins, le doute spirituel est un doute existentiel. Ils cherchent ailleurs la réponse à cette angoisse, à ce doute existentiel. Les Argentins n'iront pas prier à l'église, ils iront discuter avec un psychanalyste. Je connais d'ailleurs des prêtres qui sont psychanalystes, ou des prêtres qui envoient des patients chez les psychanalystes, ce qui me semble pas fréquent ailleurs. Enfin, je crois que la crise économique a eu des effets sociaux dévasteurs encore palpables aujourd'hui. 14 ans plus tard, la pauvreté n'a pas reculé. Les institutions publiques sont à genoux et, alors que dans d'autres pays comme la Russie, la crise a vu naître une nouvelle bourgeoisie, de nouveaux millionnaires qui ont changé la donne, en Argentine, au contraire, la reprise n'a pas eu lieu. Aucune classe n'a tiré profit de cette crise, ce qui la rend encore peut-être plus dévastatrice. La crise a fortement marqué le narcissisme des populations de Buenos Aires. C'est indéniable. La dangerosité de la ville a augmenté radicalement et l'insécurité est apparue dans toutes les conversations des Argentins, peu habitués à ce phénomène. Ils n'en reviennent d'ailleurs toujours pas. L'Argentine n'était tout simplement pas préparée à cette insécurité, à cette violence. Ici, on pourrait dire que l'État continue d'assassiner. Lorsqu'il exerce le pouvoir, le gouvernement assassine des citoyens. Il est coupable de mort d'homme, car la violence civile qui règne aujourd'hui dans la société n'existait pas avant, pas plus que le délitement social et la pauvreté. Rares sont ceux qui, parmi la classe moyenne, n'ont connu la pauvreté et sont parvenus à retrouver leur statut social. La plupart ont été engloutis par la pauvreté et les inégalités sociales ont empiré. L'Argentine est sortie de la crise de façon un peu maniaque. En 2001, le pays était détruit et en 2002-2003, l'on assistait à une sorte de renaissance assez impressionnante. L'optimisme était de mise. Actuellement, la réalité est que les Argentins ont moins d'argent qu'avant et recourent moins à la psychothérapie. Car même si nos hôpitaux sont les seuls au monde à offrir un traitement psychanalytique gratuit à leurs patients, ce qui, soit dit en passant, est peut-être absurde, mais c'est ainsi. Donc même si les hôpitaux offrent gratuitement en leurs murs des services de santé mentale et parfois une psychothérapie à orientation psychanalytique, le recours à la psychothérapie a diminué pour des raisons qui tiennent, elles, à l'état du monde.
Hoy no te cuento mi mal, solamente te recuerdo pintoresco y colorido. Paisaje bello eterno, la postal de los dos puentes me promueve la nostalgia. De tardes en la ribera y el olor que contagia la desazón de los vecinos ante la sensación de abandono de un lugar plagado de ilusión. Ayer viví tus calles, que el tiempo más apoca, son dulces tus recuerdos, barrio de la Boca.
À la Boca, aux antipodes de Palermo, Christine Pinta a créé la Casa Rafael pour venir en aide aux enfants défavorisés du quartier nommé El Barrio Chino.
Alors, le quartier de la Boca, c'est un quartier historique de Buenos Aires, c'est au cœur de la ville. C'est sur la partie sud de la ville, c'est vraiment très proche du centre politique de la ville, là où est la Casa de Gobierno. C'est un quartier donc historique dans le sens où c'est ici que venaient toujours les immigrants. Ça continue d'être un quartier d'immigrants, c'est un quartier pauvre qui est très similaire à beaucoup d'égards à ce que peut être une Villa Miseria, un bidonville, dans la dynamique, dans la vie des gens. Cela étant, c'est un quartier qui a l'air relativement tranquille quand on passe ici. Hein, ça paraît pas comme ça souvent. Par contre, quand on connaît, c'est pas si simple. Et qui a essentiellement, trois zones. Il y a une toute petite zone au cœur de la Boca, qui est sur le Caminito, qui est connue du monde entier, qui est ce tourisme de la pauvreté joli, avec des maisons de toutes les couleurs, etc., des gens qui dansent le tango, les gens viennent à ce petit marché artisanal. Là, ça, c'est une partie qui est, disons, une espèce de bulle, quelque part. Et puis, il y a deux zones qui sont plus difficiles, avec une partie aussi centrale, qui est derrière Caminito, qui est, disons, plus commerçante, normale. Et puis, il y a deux zones extrêmes. Il y a celle-ci, qui est ce qu'on appelle le barrio chino, quartier chinois. Je ne sais pas pourquoi chinois. Il n'y a pas plus de chinois ici que n'importe où. Hein. C'est simplement le supermarché. Mais je crois qu'il y a une histoire ancienne de chinois qui était là. Donc, c'est le barrio chino, qui est un quartier difficile. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la Plaza Solis, qui est un quartier aussi très rude, avec une petite Villa Miseria, avec un petit bidonville. Donc il y a deux parties assez difficiles là. Ça fait une espèce de courbe, le quartier. Donc un quartier historique qui ici, ce qu'on a beaucoup, c'est une grande immigration. C'est-à-dire que beaucoup de familles, bien sûr, sont de la racine historique, hein, des Italiens qui sont installés ici depuis longtemps. Et puis maintenant, ce qu'on a beaucoup, c'est des gens en situation de pauvreté qui viennent des provinces les plus, disons, les plus retardées, si on veut dire, de l'Argentine, comme peuvent être Chaco, Corrientes, Formosa, Salta, etc., où il y a des poches de pauvreté plus grandes. Donc beaucoup viennent ici à la recherche d'un meilleur futur. Et il y a aussi beaucoup de gens des pays voisins, comme peut être notamment le Paraguay, beaucoup de Paraguayens, beaucoup péruviens, boliviens et uruguayens. Donc il y a un mélange, il y a beaucoup de déracinement aussi hein, chez les enfants. On voit des situations où ils ont, par exemple, un enfant qui ne parle que le Guarani, qui vient ici, qui se sent très déraciné, parce qu'il vient d'une autre réalité, campagnarde ou autre. Donc il y a ces situations que les enfants vivent. Certains naissent ici, beaucoup sont nés ici, donc ils sont tout à fait identifiés avec le quartier. C'est à peu près ça la population. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui, à partir de 14-15 ans, commencent à avoir des bébés. Les femmes, 15 ans, 16 ans, c'est très courant. On a plusieurs jeunes avec des bébés. Des jeunes garçons aussi, hein. 15 ans, papa, c'est tout à fait courant. Donc il y a beaucoup de... Les gens vivent dans une situation d'habitation extrêmement difficile. Ils vivent dans ce qu'on appelle des conventillos. Les conventillos sont des grandes maisons d'autrefois qui ont été divisées en plusieurs appartements. Quand je dis appartements, c'est souvent une pièce par famille, deux pièces, tout va bien. En général, avec des communs, c'est-à-dire les toilettes sont dans le patio. Généralement, il n'y a pas de cuisine. Ils arrivent à mettre un bidule pour chauffer quelque chose. La plupart des enfants mangent dans les soupes populaires. Ça, c'est très, très important. La soupe populaire ici, c'est avec... alors là, il y a aussi toute une histoire avec la soupe populaire. Il y a aussi pas mal de corruption dans ce domaine, mais les enfants mangent là. Beaucoup de familles s'alimentent là. Nous essayons que les enfants aillent à l'école. Donc nos activités sont hors horaire scolaire, à partir de 4h30 jusqu'à 7h30. De sorte que... 7h30 parce que beaucoup vont manger justement à la soupe populaire, et souvent même ils doivent se retirer avant, certains, pour pouvoir accéder à la soupe. Le quartier est marqué très fortement par le conflit avec la loi, bon, par un conflit social en général, d'un conflit avec la loi. Beaucoup de gens, beaucoup de familles où il y a des gens en détention, ça c'est très courant. Beaucoup d'enfants ont un papa, une maman ou les deux, ou un frère, un cousin en détention, ça c'est une réalité très 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 courante. Généralement liée à la drogue, au trafic de drogue, pas seulement à la consommation qui est massive ici, massive, massive. Mais beaucoup liée au trafic, beaucoup de cocaïne. Ce qui domine ici, c'est la cocaïne. La cocaïne, soit la cocaïne, disons, en ligne, soit le paco, qui est un dérivé de mortel, vraiment terrible. Moi, je dis mortel au sens où très vite, la personne, ça atteint le cerveau et c'est très, 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 très sérieux, le paco. Évidemment, la marijuana, c'est absolument aussi commun que de fumer une cigarette, y compris par les très jeunes. Et donc, beaucoup d'enfants sont exposés ici à faire divers petits travaux pour les trafiquants, qui ont pignon sur rue, en face de chez nous, à côté. Beaucoup d'enfants se trouvent en situation soit d'être comme des mules pour faire des delivery, d'apporter des doses aux gens qui les demandent, à leurs clients, soit pour faire ce qu'on appelle ici perro, le chien, c'est-à-dire qu'il vérifie qui vient, s'il y a un policier qui s'approche, etc. Cela étant, les policiers ne sont pas blancs ici. Hein. Chacun y trouve son petit compte.
Soledad. Ayudar. Pérdida. Pelea. Felicidad. Paciencia. Respeto. Pasión. Vida. Amigos. Toleración. Amor. Violencia y tristeza.
Respeto, felicidad, paciencia, pelea, ayudar, pérdida, soledad, tristeza, violencia, pasión, amigos.
Alors l'art, parce que c'est la meilleure manière, à mon avis, d'entrer en matière sur la créativité des enfants. C'est-à-dire, c'est ce qui leur permet... On travaille avec la pédagogie de l'éducation par l'art, qui nous permet... Le but ultime, c'est pas le produit artistique. Le but ultime, c'est l'art de vivre, en fait. C'est qu'un enfant trouve, à travers cette activité artistique, qu'il a une créativité, qu'il a des ressources, qu'il a des réponses, qu'il a une possibilité, qu'il a une richesse, qu'il a ce trésor intérieur que personne ne va lui voler. Quel que soit son chemin de vie, quel que soit le contexte dans lequel il vit, il a quelque chose qui lui est propre, qui peut toujours protéger. Et c'est ça qu'on lui essaie de lui apprendre, et qu'il a la possibilité chaque fois de transformer la réalité, sa réalité immédiate, à travers cette créativité. Donc c'est ça l'art pour ça. Mais c'est pas l'art seulement. Nous, on a trois piliers de travail. Le premier pilier, c'est les ressources artistiques. Donc on a des ateliers de musique, d'art plastique, de littérature, de danse, de photos et vidéos. Je ne me souviens plus, je crois que j'en ai oublié, je vais me faire gronder par les professionnels. Mais l'art comme tel seulement, ce n'est pas suffisant. Nous, on a tout un accompagnement par des psychologues, qui est très important dans ce contexte tellement conflictuel, et un accompagnement social, qui est aussi très important, puisque beaucoup de gens ont des grosses situations difficiles. Il y a beaucoup d'enfants qui ont vécu ici, qui vivent encore l'autre jour, en décembre, des situations d'incendie, c'est très 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 courant. Les maisons sont dans un état misérable. Il y a très souvent des incendies accidentels, mais il y en a aussi des incendies criminels. Nous, on a perdu deux enfants dans un incendie criminel des suites d'une bagarre pour la drogue. Deux enfants qui sont morts, deux petits frères qui sont morts dans un incendie. Le hasard a voulu qu'il n'y en ait pas d'autres. Ils étaient plusieurs enfants en haut, ils ont sauté des fenêtres du 8e étage. Et les deux petits frères y sont restés. Et en décembre, le 23 décembre, il y a eu un incendie où, de nouveau, où il y a 20 familles qui sont restées sur le carreau, Quand je dis sur le carreau, c'est vraiment sur le carreau. Il ne reste rien. Je peux vous montrer la maison des enfants qui sont décédés. Il ne reste rien. Rien. C'est vraiment des miettes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'incendies. Donc, nous, on est chez les pompiers. C'est très important, la figure des pompiers, dans ce quartier, traditionnellement. Hein. Et donc, il y a beaucoup de situations très difficiles du point de vue du logement. Il y a beaucoup de promiscuité. Ça, c'est un vrai problème. On le voit à travers les tout-petits, par exemple. Ils manifestent ce qui se passe. Ils voient leurs parents dans des situations de parents, les adultes, dans des situations sexuelles qu'ils ne devraient pas connaître. À part ça, la télévision fonctionne sans discrimination de jour et de nuit. Ici, c'est permanent. Donc ça aussi, ce n'est pas un très bon vecteur d'éducation. Mais bon, c'est la vérité. Ça se passe comme ça. Comme dans tous les quartiers populaires, souvent, hein, la télévision elle devient permanente. Elle est en boucle tout le temps. Hein. Donc ça, on le voit beaucoup chez les petits, par exemple. On voit des situations incroyables chez les petits. Et puis bon, ils ont l'habitude de régler les comptes au coup de poing. Donc nous, tout notre travail, c'est de les amener au respect de soi, au respect de l'autre, de trouver leur propre espace sans pour autant devoir le défendre à coup de poing. Trouver leur espace psychologique, interne, on a tout un travail, par exemple, avec une des professionnelles qui a un atelier qui s'appelle, on leur donne toujours un nom un peu attractif, qui s'appelle « Le mouvement enchanté ». Et donc, elle fait tout un travail, par exemple, à la fin de l'année, elle travaillait beaucoup la question de l'espace. Et c'est une découverte pour les enfants, parce que l'espace, ça ne veut rien dire. Quand on dort à 6 ou 7 dans une pièce, c'est quoi l'espace ? Il n'y a pas un espace propre, ça n'existe pas. Donc, apprendre qu'on a un espace propre et que le trouver à l'intérieur, pouvoir exister comme tel, tout ça, c'est très, très important. Donc, on le fait à travers des exercices très ludiques. Et d'une part avec l'activité artistique et d'autre part avec l'activité psychologique.
Cuando empecé a pensar en el barrio se me ocurrió muchas cosas, pero qué contar. Pensé en la cancha de Boca, en Quinquela, también en Caminito, pero algo me faltaba, no sabía qué, hasta que me di cuenta que lo más importante de la Boca son los sueños.
La figure du psychologue ici, dans ce contexte, est très importante. Aussi bien, enfin, les deux figures masculine et féminine. Ici, dans ce quartier, les femmes sont dominantes. Parce que les hommes sont très souvent absents, parce qu'ils sont partis, parce qu'ils ont abandonné, ou parce qu'ils sont en prison, ou parce qu'ils travaillent toute la journée et qu'on ne les voit pas. Beaucoup font camionneurs, par exemple. Donc, ils ne sont pas là. Donc, la figure masculine, c'est très, très importante. Et nous, on a un psychologue homme et une psychologue femme. Le psychologue homme, on voit à quel point il a un pouvoir d'attraction, déjà par le fait d'être un homme. Bon, en plus, il est une personne très, comment dire, très compétente, très rassurante, très charismatique pour les enfants. Il a une figure très rassurante pour eux. Mais les enfants le cherchent aussi beaucoup pour sa figure masculine, sa figure de père. Père ou grand-père. Parce que pour les tout-petits, il a un dialogue incroyable avec les tout-petits, c'est extraordinaire. C'est une figure dont on sent absolument toute l'importance.
Thank you.
Parce que notre principal objectif et notre principal ingrédient de travail, c'est la confiance. Si on n'acquiert pas la confiance des enfants, et qu'ils sont habitués à toujours manquer de confiance, c'est-à-dire c'est la base. Vous voyez des dessins d'enfants, je vais vous montrer une peinture. Il y en a un gosse qui a fait une peinture qui est à mon avis typique. Il fait un profil sur le bord du tableau et on voit l'enfant comme ça de côté. Et c'est très clair, je te montre cette partie-là, mais le reste, il ne faut pas quand même en demander trop. En l'occurrence, cet enfant vit une famille qui trafique, la prostitution et tout ce qu'on veut. Donc il te montre ça, le reste pas. Et c'est très courant. Et les enfants sont très dans le manque de confiance parce qu'ils sont habitués à se défendre dans un contexte qui est hostile. Nous, ce qu'on fait, c'est on ne se met pas dans les histoires du quartier. C'est-à-dire que nous, on est là au service des enfants et c'est notre discours. On est là au service des enfants, on n'est pas là pour juger les adultes dans leurs activités, on n'est pas là pour interférer dans leurs activités, on est là pour être auprès des enfants. Et dans le rapport qu'on a avec les adultes, il est essentiellement lié à leur rapport aux enfants. Donc, je crois que les gens ont compris, de manière générale, qu'on n'est pas des ennemis. On pourrait l'être, hein. On n'est pas des ennemis. On est des gens qui respectent leurs valeurs. On n'est pas là pour les juger. On est là vraiment pour être auprès des enfants. Et quand on est en contact avec les parents, ou enfin les adultes, ce discours, il est ou explicitement ou implicitement toujours là. Donc, je crois qu'on est très bien accepté jusqu'ici. Je touche du bois parce que ça fait à peu près 10 ans qu'on est là. On initie, on commence la 10e année. Il fallait gagner le droit de séjour ici. Il fallait le gagner. Je crois qu'on l'a gagné. Je crois que les enfants parlent bien de nous. Mais aussi, on fait des activités de ce qu'on a en programme qu'on appelle « Ouvrir l'horizon ». C'est-à-dire que comme les enfants ici sont uniquement dans la télévision, le football, on les emmène au Théâtre Colonne, on les amène à un concert, on les amène au cinéma, on les amène au théâtre, on les amène à la danse, etc. On leur fait connaître d'autres énergies, d'autres lieux de Buenos Aires, d'autres façons de faire de l'art, d'autres cultures, et donc ils découvrent peut-être d'autres possibilités, d'autres expressions artistiques. C'est très très important à mon avis pour leur ouvrir la tête. Et généralement, on emmène les parents. On essaie de faire que les parents viennent avec nous. Alors, ce quartier fait partie et touché par un projet qu'on appelle le District des Arts. Le District des Arts, c'est un projet qui vient depuis 3 ans ou 4 ans à peu près, je me trompe, peut-être même avant, qui a commencé un peu plus loin, hein, qui a déjà atteint Caminito et qui vient vers ici. Le but, c'est d'amener dans ce quartier, finalement, qui est très central, qui est très proche de la maison du gouvernement, hein, on est au cœur de la ville de Buenos Aires, c'est des terrains très valables, très, très, de grande valeur, je veux dire. Donc, il y a tout un projet immobilier. Les gens se sentent très menacés, et ils le sont, hein. Il y a des expulsions, il y a beaucoup d'expulsions, il y a beaucoup d'incendies qui ne sont pas toujours d'origine tout à fait claire. Il y a beaucoup de situations difficiles. Les loyers augmentent beaucoup. Beaucoup, ce qui fait que les gens ne peuvent pas survivre ici, la plupart. Donc on est de plus en plus avec un quartier qui c'est une zone industrielle au départ. Derrière nous, là, je vais vous montrer tout à l'heure, il y a toute une zone, c'est les cloaques, hein, c'est vraiment n'importe quoi, comme c'est pas du tout bien urbanisé ni rien. C'est des grands hangars d'industrie. Et il y a des familles qui vivent là. Et donc, petit à petit, cette zone commence à être de plus en plus atteinte par le quartier, le district des Arts. Et c'est en voie de changement très rapide. Et les familles sont obligées peu à peu de quitter. Je pense qu'on va avoir des changements. D'ici 5-10 ans, le quartier n'aura plus du tout le même caractéristique, je pense. C'est la mairie de Buenos Aires qui a un projet très ferme là-dessus, très très attentif à ça. Ils travaillent beaucoup là-dessus. Beaucoup de maisons ont été rachetées par des gens proches du gouvernement. Donc y a un gros projet immobilier, y a beaucoup d'argent en jeu, beaucoup d'intérêt en jeu. La boca, par définition, a toujours été liée au monde de l'art. Le tango, mais aussi il y a beaucoup de peintres. Nous, on a une figure emblématique ici à la boca qui est le peintre, peut-être pas très connu de vous en Belgique, mais qui est le Benito Quinquela Martín. Benito Quinquela Martín a été, au début du siècle, du 20e siècle, la figure de la peinture argentine. C'est un homme extraordinaire parce qu'il est un frère de ses enfants ici. C'est un homme qui est né abandonné. Il a été déposé bébé dans une de ces boîtes, vous savez, des couvents, dans ce qu'on appelait l'hôpital des enfants. Et quand il avait, je crois, 6 ou 7 ans, je ne me souviens plus exactement l'âge, déjà grandé, il a été adopté par des charbonniers de la Boca, qui étaient des gens très pauvres, et il a fait le métier de charbonnier, petit bébé, enfant. Et il avait une pulsion créatrice très grande, ce qui, pour nous, c'est un modèle qui intéresse les enfants, et de lui-même, il s'est mis à dessiner ce qu'il voyait autour de lui, alors au charbon, avec sur des bois ou des choses comme ça, jusqu'à ce qu'un peintre le découvre, se rende compte de la capacité qu'il avait, et lui fasse découvrir les couleurs. Et il est devenu le peintre connu de l'Argentine. Et il n'a jamais renoncé à être fidèle à son quartier. Il a toujours été très fidèle à son quartier, ses amitiés, et toujours très solidaire. Il a créé beaucoup de projets sociaux. Il a créé une école, il a créé un lactarium, etc. Et pour nous, c'est une figure emblématique. Il y a un musée qui est son ancienne maison. Et avec ce musée, nous avons un accord historique, je dirais, depuis que la Casa Rafael existe. Et chaque année, on y fait des expositions des enfants. Donc c'est comme une continuité de l'œuvre de Quinquela Martín. Le musée nous invite les enfants à montrer leurs œuvres, à jouer de la musique. Et ça fait 3 ans maintenant qu'à l'occasion de la nuit des musées, les enfants de Casa Rafael vont faire un concert. Donc ils ont été très applaudis en 2014, ils étaient ravis, c'est toujours en novembre, ils étaient ravis, ils sont revenus enchantés. Et pour nous, c'est très important, ces expositions ou ces concerts publics, on en fait plusieurs fois par année, parce que c'est une façon pour les enfants de recevoir un retour de la part du public, de la part de gens qui ne connaissent pas, et qui disent « Waouh, vous faites des belles choses ». Et ça, c'est très très important parce que ça les encourage à continuer à se rendre compte qu'ils ont des possibilités. Nous, on a par exemple, dans le domaine de la drogue, il y a un pouvoir d'attraction extraordinaire. Et c'est vraiment... On a eu un jeune qui a été assassiné il y a 3 mois. Et on a travaillé des années avec lui. C'est un jeune qui avait vécu des situations terribles, beaucoup d'abus sexuels, etc., d'abandon. Le pauvre, je crois qu'il avait tout, il ne manquait rien. Moi, je suis allée voir son père en lui disant, tu vois, je viens de le voir, etc. Je lui avais dit à lui, tu vois, il t'exploite, tu vois bien qu'il t'exploite, etc. Il a baissé la tête, mais bon, ils ont rien. Donc, c'est un pouvoir d'attraction, c'est de l'argent. Il y a un tel pouvoir de la consommation. Avoir quelque chose quand on n'a rien. Avoir les tennis qu'on voit à la télévision, des choses bêtes parfois. Avoir la chemisette de Boc. Avoir des biens de consommation. C'est un pouvoir d'attraction énorme. Et très souvent, il tombe. C'est un gros problème. Mais en même temps, on a des gosses qui en sortent, heureusement. Et on travaille pour ça. C'est pour ça que nous, on fait un gros travail avec l'école. Il y a beaucoup d'abandon scolaire chez les adolescents et préadolescents. Et on a un accord avec une école, qui est une école de récupération, qui fait un travail formidable, qui est à quelques blocs d'ici. On fait un travail tout le temps avec eux pour l'inscription des enfants, des adolescents, pour le suivi. Chaque mois, tous les mois, le psychologue va là-bas, le travailleur social aussi, pour voir où est-ce qu'en sont les enfants, on suit l'évolution des notes, etc. Parce que vous avez des jeunes de 18 ans qui sont en 3e, 4e, et beaucoup lâchent, et puis relâchent, puis il faut repartir, puis il faut recommencer, etc. Mais ils lâchent pourquoi ? Ils lâchent parce qu'ils doivent travailler, ils lâchent parce qu'il faut s'occuper des petits frères. On a une jeune fille qui est très intelligente, très capable. Elle a lâché, il faut s'occuper des petits frères, ils sont 10. Bien. Et c'est courant. Il faut travailler. Un jeune qui vient d'avoir un bébé, il a 15 ans, il vient d'avoir un bébé, il faut bien qu'il bosse. Donc l'école, ciao. Après, revenir à l'école le soir, c'est dur quand on a travaillé toute la journée, charge ou décharge de camion, ou des travaux de cet ordre-là. Ils sont morts de fatigue, donc ils laissent tomber. Et ça, c'est embêtant, parce que c'est souvent des jeunes qui ont des capacités, des potentiels. Et donc on essaie de les encourager à tenir l'école, mais c'est pas si simple, hein. C'est pas si simple. Il y a beaucoup de pauvreté en ville, à Buenos Aires, les villas miseria, les bidonvilles, se développent de manière exponentielle. C'est impressionnant. Ils se consolident. Les gens construisent. Ici aussi, hein, ils construisent comme ils veulent. Et d'autre part, il y a une énorme pauvreté dans les populations indigènes, populations originaires. C'est impressionnant. On ne peut pas le croire qu'un pays comme ça, qui est un pays riche, puisse avoir une situation aussi misérable pour ces populations d'origine. Dans le nord de l'Argentine, c'est impressionnant. Il y a des situations incroyables. On ne peut pas le croire, parce que vous pouvez être à Buenos Aires et penser que vous êtes à Paris ou à New York. Vous pouvez passer complètement à côté de cette réalité, ne voir que des grands shoppings ou des gens qui vivent dans... Parce qu'il y a des gens ici avec énormément d'argent, un pouvoir économique extraordinaire, qui vivent sur un pied d'égalité avec les meilleurs, les gens les plus riches de l'Europe ou des États-Unis. Et à part ça, vous avez cette situation qui est tellement contrastée. Mais on ne l'imagine pas de l'Argentine, parce que l'Argentine, c'est tellement européen. C'est tellement l'Europe ici. En plus, c'est l'Europe avant beaucoup d'immigration. Parce qu'ici, quand vous êtes dans la rue, vous voyez pratiquement que des Blancs. Des Blancs plus ou moins un peu bronzés, mais vous voyez que des Blancs. Parce que les gens qui sont mélangés d'Indiens, ils ne sont pas si différents. Tandis que vous allez en Europe, vous avez une population beaucoup plus mélangée aujourd'hui. Mais ici, aujourd'hui, ça devient un peu plus mélangé. Mais autrement, généralement, on se sent en Europe ailleurs.
Thank you.
¿quién soy yo? Vivo en un mundo dado vuelta y no sé qué voy a hacer. Pienso y pienso y no entiendo por qué tuve que nacer. No me entiendo a mí mismo y tampoco a los demás. Estoy esperando a que alguien venga y me diga la verdad. ¿Quién soy yo? ¿En dónde estoy? Si esto es un mundo, por favor, dímelo, si vivo o no. Contéstame, por favor. Papi, yo te amo. Te amo más que cualquier padre que existe en este mundo. Sos el mejor padre que existe en mi corazón. ¿Quién soy yo? ¿En dónde estoy? Si esto es un mundo, por favor, si vivo o no. Si vivo o no. Te amo. Ça, c'est une chanson rédigée par cette jeune fille de 9 ans, cet enfant, de 9 ans à son père qui est en détention. Et ça montre à quel point les enfants ont de véritables inquiétudes. Il faut être là auprès d'eux, c'est très important. C'est magnifique. Quelle richesse, non ?
Buenos Aires, de Palermo à la Boca, un documentaire de Michel Bernard et de Vinciane Mechler. Traduction Béatrice Crabé. Montage Michel Bernard. Mixage Christian Copin. Une production Unité Nomade. Un grand merci à Hannibal et Marlise Josami, à Adriana Zanin et bien évidemment à Benjamin Biolay.